La visite à partir d'aujourd'hui en France du président chinois Xi Jinping avec un constat, les tensions commerciales entre l'Europe et la Chine, comment faire évoluer ce dossier? Eh bien on en parle ce matin avec vous, bonjour François Godemant.
Bonjour.
Vous êtes sinologue, historien, professeur des universités à Sciences Po, vous dirigez le programme Chine du think tank European Council on Foreign Relations. Et votre dernier livre, coécrit avec Abigail Vasselier, a pour titre « La Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe », ça paraît chez Odile Jacob. Alors vous dites François Godemant en préambule que vu d'Europe, la Chine de Xi Jinping est devenue le pays de nos désillusions. Quelle illusion avons-nous perdu depuis une décennie avec cet État parti?
Il y en a deux. La première, c'est qu'on a cru que au fur et à mesure que l'économie chinoise grandissait, aujourd'hui, chacun des 1,4 milliard de Chinois a un revenu par habitant d'à peu près 10 000 dollars. Ça ne dit peut-être pas grand-chose aux auditeurs.
C'est une petite moyenne européenne.
C'est une petite moyenne européenne, oui. C'est plus que la Bulgarie. Et surtout, ça augmente très vite. On a cru qu'avec cette évolution, on aurait ce qu'on appelle une économie de marché, c'est-à-dire aussi un système plus libéral. On a cru que le Parti communiste chinois, qui a le pouvoir depuis 1949, petit à petit, disons, s'ouvrirait. Or, c'est exactement le contraire qui s'est produit. La Chine tient à son statut d'économie en voie de développement et aux avantages qui recèlent, d'où les difficultés commerciales, parce que il n'y a pas ouverture symétrique, et particulièrement avec Xi Jinping, qui pratique un pouvoir personnel qui n'a d'égal que l'époque de Mao, on a véritablement une dictature restaurée.
Une dictature, notamment le système de surveillance des Chinois que vous décrivez dans votre livre. Vous dites qu'il est le plus abouti au monde, ce système de surveillance des Chinois. Je croyais que cette distinction, on mettra le mot entre guillemets, était réservée à la Corée du Nord. C'est pire en Chine ?
La Corée du Nord est extrêmement loin d'avoir les moyens technologiques de la Chine, qui est le numéro un mondial pour les puces, pour les circuits intégrés, pour tout ce qui est informatique, si vous voulez, et avec aucune restriction sur l'usage, la notion même de vie privée, si vous voulez.
Elle se décline comment, cette dictature, concrètement, au quotidien pour les Chinois?
Au quotidien, je pense qu'on peut revenir à ce que Pinochet disait, nous construirons un mur électrique. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement vaquer à vos occupations et ne pas y rencontrer le Parti communiste, encore qu'aujourd'hui, dans l'éducation, dans l'adhésion obligatoire pour 90 millions de jobs, disons, et dans certaines régions comme le Xinjiang, là vous le rencontrez tout le temps.
Mais juste une parenthèse sur le plan du contrôle justement économique de la part de l'État, vous pensez que c'est tenable encore ça ?
Écoutez, c'est si tenable pour l'instant que beaucoup de pays occidentaux s'interrogent sur le renouveau éventuel d'une politique industrielle, d'une politique technologique. Beaucoup de gens commencent à se demander s'il ne faut pas agir en miroir sur le plan économique.
Et les femmes en Chine, c'est une force pour le progrès social? Est-ce que politiquement, elles exercent des responsabilités malgré tout? Est-ce que le niveau de l'emploi s'est élevé?
Depuis 1949, et déjà sous Mao, c'est l'aspect positif.
L'émancipation.
Et l'apparition des femmes dans toutes les catégories d'emplois, y compris dans les emplois politiques, sauf peut-être au sommet. Aujourd'hui, ça recule au sommet au lieu de continuer à avancer.
Et pourquoi ?
Donc, probablement parce que comme il y a une personnalisation extrême du pouvoir autour de Xi Jinping, les différents critères qui pouvaient être employés avant comptent beaucoup moins que ce que le chef lui-même décide. Je pense que ce sont des raisons tout à fait contingentes, si vous voulez.
Xi Jinping, que l'on dit en difficulté en Chine, y compris au sein de son propre parti, pour quelles raisons ?
Je suis extrêmement sceptique là-dessus. Ce qui est vrai, c'est que quand vous emprisonnez massivement des généraux de votre armée, des cadres à un niveau très élevé pour corruption, mais c'est aussi parce que vous réglez vos comptes, vous vous faites des ennemis. Quand vous créez un culte de la personnalité absolument géant dans un pays qui avait quand même pris l'habitude d'un peu plus de libéralisme, vous avez beaucoup de gens qui soit sourient, soit sont excédés. De là à constituer une faction et à marcher dans la rue pour renverser le dictateur, je crois qu'il y a une distance immense.
Et la guerre commerciale que mènent les États-Unis contre la Chine, ça a quelles conséquences sur les Chinois d'abord peut-être, et après sur le régime chinois ?
Eh bien, un peu plus forte que ce que le régime ne l'a dit au printemps dernier quand ça s'est déclenché. Là, il a fanfaronné sur le thème « ça fera plus de mal aux États-Unis qu'à nous ». Et comme aux États-Unis, il y a évidemment beaucoup de critiques de Trump, beaucoup de gens étaient prêts à enterrer cette politique. Finalement, il y a un facteur qui a décidé, c'est que l'opinion publique chinoise elle-même est très sensible à ce que font les États-Unis.
Mais quand Trump a été élu, les Chinois pensaient qu'ils allaient se le mettre dans la poche, non ?
Oui, ils se disaient, c'est par opposition à Madame Clinton, dont ils détestaient les principes. Ils se disaient, c'est un homme d'affaires, donc flexible, je pense qu'il n'ignorait pas certains des aspects de ses affaires. Ils se sont donc dit, ça va être dur par moment, mais au fond, il n'a aucune idéologie, aucun but, il est complètement pragmatique. Puis ils ont découvert que c'est peut-être le point le plus cohérent de la politique extérieure de Trump, et que là-dessus, bah, il y a un ensemble de briques qui s'empilent et qui leur rendent très difficile. Surtout, Trump a dit qu'il serait imprévisible. Et alors là, cette promesse-là, il la tient.
Est-ce que la Chine détient toujours une partie de la monnaie américaine ? Et à quel niveau ?
Moins qu'avant, beaucoup moins qu'avant. Il y a une baisse des avoirs chinois dans les dettes du Trésor, dans les bons du Trésor américain. Il y a une montée, par contre, dans d'autres monnaies, y compris dans l'euro. Et en même temps, c'est pas du tout de l'intérêt de la Chine de vendre massivement et rapidement de la dette américaine. Je vais être un peu technique, ça ferait monter immédiatement la monnaie chinoise et ça nuirait précisément aux exportations.
Quand vous écrivez que la Chine pratique la géopolitique de la force, quel exemple par rapport à la France et peut-être au niveau de l'Europe ?
Bah, au niveau de l'Europe, il y a cette surdité par rapport au dialogue de l'Union européenne. Elle y participe, mais pas toujours. Parfois, elle annule les sessions. Parfois, ça se termine sans communiquer. Et par contre, cette politique systématique, dont d'ailleurs le voyage de Xi Jinping témoigne, d'enfoncer toutes les portes, c'est-à-dire d'aller pays par pays.
Et c'est-à-dire le bilatéralisme, là où l'Europe préférerait le multilatéralisme.
Bah écoutez, si le chef de l'État chinois fait une visite d'État à Monaco avec 38 000 habitants, c'est qu'il a le soin du détail. On peut dire qu'un pays d'1,4 milliard face à des pays de 30, 50, même 80 millions d'habitants, ça pèse plus lourd. Regardez l'interview de Xi Jinping qui est parue sans faire de réclame dans le Figaro pendant le week-end. Sur une page et demie, vous n'y trouverez pas le mot Europe de façon fascinante. Et il en est toujours à la relation avec le pays qu'il visite à ce moment-là.
Face à ce défi chinois, eh bien, l'Europe tente justement de jouer l'unité. Vous rappelez dans votre livre, François Godemant, que de ce point de vue, la Commission de Bruxelles est devenue un peu plus réaliste qu'il y a une décennie. En quoi l'Europe a-t-elle mis de l'eau dans son alcool de riz, si vous me permettez l'expression ?
Ben, je pense qu'elle a d'abord refusé d'accorder ce qu'on appelle le statut d'économie de marché à la Chine, qui n'en était pas une. Ça n'a pas été simple, parce que quand la Chine est entrée à l'OMC, il y a 17 ans maintenant, c'était en principe le terme échu. Mais de fait, la Chine n'a pas rempli ses conditions. Au contraire, l'Europe a pris des mesures de défense commerciale, qui sont encore en discussion. Elle a aussi adopté tout récemment, mais après un débat difficile entre pays européens, une réglementation sur le filtrage des investissements pour protéger nos infrastructures les plus sensibles dans des domaines de technologie avancée. La Chine faisait son shopping, elle fait encore d'ailleurs, tandis que les secteurs équivalents en Chine ne sont bien sûr pas ouverts.
Et cette non-reconnaissance de l'Europe de l'économie de marché chinoise, ça a coûté cher aux accords de Paris sur le climat qu'elle avait pourtant signé la Chine en 2015 ?
Non, parce que vous savez, les accords de Paris sur le climat sont à la fois merveilleux et en même temps non contraignants.
Et en même temps, pour eux, ça ne sera effectif qu'en 2030. Hein.
Donc, autour de 2030, ont-ils dit. Et la Chine, d'ailleurs, ne s'y dérobe pas, parce que d'abord, elle est la première à souffrir du problème de la détérioration de l'environnement. La situation est devenue catastrophique au cours de ces dernières années.
Ça veut dire, pour être concret, que la Chine entend aujourd'hui concrètement les arguments écologiques ?
Elle les entend en particulier parce que c'est aussi des opportunités commerciales pour elle, la création de nouveaux secteurs d'activité. Ce qu'elle ne veut toujours pas, c'est se voir fixer des objectifs vérifiés.
La Chine a lancé d'ailleurs il y a 2 ans, je crois, un vaste plan d'énergie renouvelable. Ça en est où ce plan, on le sait ?
Très développé. Je pense que c'est le premier pays mondial pour le solaire. Et d'ailleurs, il y a une surproduction de panneaux solaires à l'échelle mondiale qui vient de la Chine. Plus douteux.
Toujours avec du dumping, on l'a bien connu.
Avec c'était même l'exemple.
Des panneaux solaires chinois.
Et ça continue, on peut dire qu'ils ont gagné la partie. Sont-ils en train de la gagner sur la batterie électrique, qui est bien sûr la composante essentielle pour remplacer le pétrole dans les automobiles ? Probablement. C'est moins net pour l'énergie éolienne, où ils ont là vraiment des problèmes de gestion du réseau électrique.
Vous parlez de batterie, mais on peut, pendant qu'il y a des énergies alternatives, il y a aussi, on est en train de monter des gratte-ciels à cochons, hein, un peu partout en Chine. C'est-à-dire des gratte-ciels dans lesquels on élève des cochons jusqu'au 32e étage.
Et encore plus simplement, à côté de sa signature des accords de Paris, la Chine est le plus grand exportateur mondial de centrales à charbon vers d'autres pays. Donc, il y a un double discours.
Et puis, il y aura une réunion mardi prochain à l'Élysée entre Macron, Xi Jinping, Merkel et puis le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. On va en parler dans un instant. François Godemans, je rappelle le titre de votre livre, La Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe. Ça paraît chez Audit Jacob. Vous restez avec nous. Notre invité ce matin, le sinologue François Godemans, chercheur associé à l'Institut Montaigne, historien. Votre dernier livre que vous co-signez avec Abigail Vasselier a pour titre « La Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe ». Eh bien l'Europe, justement, elle sera mardi prochain représentée à l'Élysée avec Emmanuel Macron, avec Xi Jinping, avec Angela Merkel et donc Jean-Claude Juncker, le président de la Commission. En quoi est-ce que cette réunion de mardi prochain illustre une nouvelle ligne de conduite de l'Europe à l'égard de la Chine?
En tous les cas, une innovation française. On n'a jamais vu une visite bilatérale se passer de la sorte avec l'association des dirigeants européens.
Mais bilatérale de qui envers qui? Entre la France et la Chine ou l'Europe et la Chine?
Ah ben c'est une visite bilatérale en France, bien sûr, et pas en Europe. Précisément parce que Xi s'est rendu en Italie d'abord, et même à Monaco, qui est un État.
Pour aller vendre la 5G.
Et pour vendre la 5G, effectivement, qu'il veut vendre partout en Europe, malgré les objections et le débat de sécurité qui existe.
Que ça suppose.
Et c'est complètement nouveau. Bien sûr, il y a des sommets UE-Chine. Et Madame Merkel a proposé qu'en 2020, les 28 chefs ou 27 chefs de gouvernement y participent. Ce serait également la première fois. Mais là, le geste de Macron, qui consacre une partie de sa visite à associer les Européens, vise à démontrer à la Chine et vise à démontrer à Xi Jinping qu'il peut pas continuer comme ça, pays par pays, en ignorant la volonté rassemblée des Européens.
Mais vu sa force, Xi Jinping, il s'en fiche.
Non, il ne peut pas s'en fiche parce qu'il est beaucoup plus facile pour lui de traiter avec chaque pays divisé qu'avec un rassemblement européen. Et même si ce rassemblement n'est pas complet, la présence de Jean-Claude Juncker, l'UE qui vient d'adopter des recommandations extrêmement ambitieuses pour faire face à la Chine, c'est complètement nouveau pour lui.
Mais l'unité des Européens face à la Chine, oui, d'accord. Sauf que lorsque les votes européens nécessitent l'unanimité des États, est-ce que la Chine pourrait compter sur quelques eurosceptiques pour aller enfoncer un coin? Notamment, c'était peut-être le sens de la visite hier en Italie.
Oui, on n'a pas voté à l'échelle européenne sur les routes de la soie. Hein.
On va rappeler ce concept de route de la soie en deux mots. C'est un concept qui ne plaît ni à l'Europe ni aux États-Unis. On peut rappeler le programme de la route de la soie, la nouvelle route de la soie.
C'est un programme lancé depuis maintenant six ans par Xi Jinping, qui en fait vise les créneaux porteurs de l'économie chinoise à l'étranger, la construction d'infrastructures et leur financement. La capacité, si vous voulez, à transformer littéralement le cadre géographique.
Mais maintenant, c'est dit, mais la porte avant, elle s'est ouverte à bas bruit depuis bien longtemps, non? Tout à coup, on découvre, je ne sais pas, que le port du Pirée en Grèce a été acheté par les Chinois, qu'il y a des navires militaires chinois qui procèdent à des exercices en Méditerranée.
Enfin, bon, oui, ça fait
on
effectivement...
On semble le découvrir maintenant.
Les choses ont commencé en Europe avec la grande eurocrise de 2010-2011 et la vente des biens publics, si vous voulez, pour faire face aux dettes et l'opportunité chinoise. La Chine avait une ressource à peu près infinie, financement bon marché pour acheter des actifs. Donc, c'est pas entièrement nouveau, mais ça s'accentue. Mais l'Europe, effectivement, met du temps. Et il y a une réaction collective qui se produit, qui tient aussi au fait, je le souligne, que la Chine discute peu avec l'Europe en pratique.
Et puis, il y a le fameux débat de la réciprocité des échanges. C'est ce qu'a promis hier le président chinois à son homologue italien, Sergio Mattarella. C'est un peu inespéré, cette réciprocité des échanges pour une Italie dont l'endettement est le deuxième le plus important de la zone euro et dont l'économie est officiellement en récession.
Oui, je pense pas qu'il l'a dit devant Mattarella. Le président de la République italienne, je pense qu'en fait c'est une première réaction à ce qui va se passer à Paris et au texte adopté par la Commission il y a une dizaine de jours qui est beaucoup plus ferme et plus précis, qui parle d'une politique industrielle européenne pour faire face à la Chine. Je crois que Xi Jinping est tout sauf sourd il est flexible au moins dans les paroles. Souvenez-vous que c'est lui qui a dit aussi que la Chine était absolument pour le multilatéralisme après l'élection.
Et sur la question de la protection des brevets, parce que ça c'est quand même un sacré sujet, est-ce que maintenant ils font pas un petit peu machine arrière ? C'est-à-dire qu'en fait ils se rendent compte qu'on peut, si eux pillent les autres, ils peuvent aussi être pillés.
Je crois pas que ce soit par rapport aux étrangers, aux entreprises étrangères qu'ils ont peur. Simplement, au fur et à mesure que l'économie chinoise se développe et devient plus sophistiquée, bah, la protection des brevets est une nécessité en Chine même. Mais il est bien établi qu'il y a une politique d'appropriation des technologies à l'étranger par tous les moyens.
Il y a une coïncidence, c'était il y a 60 ans, la fuite du Dalai Lama de la ville de Lhasa au Tibet. Les Tibétains vont tenter de faire entendre leur voix aujourd'hui et demain à Paris. Est-ce que la question tibétaine sera abordée lors de cette visite de Xi Jinping en France et en Europe en général ?
Je ne le sais pas de façon précise, mais ce qui est certain, c'est que si on regarde ce que le président Macron fait avec la Chine depuis 2 ans, il est assez réaliste et pro-européen et ferme sur un certain nombre de questions qui touchent à l'économie, en gros, et très prudent dès qu'il s'agit de droits de l'homme d'une manière ou d'une autre. La France, si vous voulez, ne se met pas en pointe dans tous les domaines.
On va terminer avec les perspectives d'une superpuissance mondiale de la Chine. Vous dites que ce serait peut-être à l'horizon 2030-2050. Sur quel domaine d'activité précis la Chine serait la superpuissance économique à l'horizon 2030-2050 ?
D'abord dans les créneaux productifs, disons l'industrie, d'ailleurs elle l'est déjà sur le plan commercial, c'est déjà la première puissance. Ensuite, elle prend position très fortement sur toute l'économie numérique, non seulement à l'égal de Silicon Valley, mais si on regarde les usages économiques et les usages sociaux, elle est probablement en avance.
Comme la Russie, elle a son propre réseau Facebook, oui, mais Google.
Oui, mais avec une base de manœuvre d'1 milliard de...
Et les liens avec le militaire
d'appareils. Et les liens avec les militaires, ouais, tout ça est copié de ce que faisaient les États-Unis dans les années 50 et 60, mais c'est très bien copié.
François Godemans, donc je rappelle le titre de votre livre, La Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe, un livre pour comprendre l'avenir de nos relations franco-européennes, franco-sino-européennes. Il faut mettre les trois dans la boucle. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Institut Montaigne. Merci beaucoup d'être venu en parler ce matin sur France Inter. Merci. Et bonne journée.